Cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 14 octobre 1991.
La dernière fois, je vous ai rappelé qu'il serait bon de faire une petite topique au point de vue de la naissance de l'éthique en philosophie. Topique du côté de la philosophie grecque. C'est toujours pour vous montrer l'intérêt très actuel du reste, peut-être surtout en Allemagne plus qu'en France, de ce retour aux sources. Ça revient toujours quand on est un peu en période de crise. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique aujourd'hui? C'est intéressant de consulter, de voir. Il y a un dernier livre qui vient de paraître, Fondement de la morale, mais qui est de l'abbé Léonat, Monseigneur Léonat, qui vient d'évêque de Namur, de Louvain. Fondement de la morale. C'est le grand problème d'aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la morale et l'éthique. Alors, quand il y a des périodes de troubles comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a un bonheur, regardez au point de vue politique. Quelle est l'importance de l'éthique au point de vue politique aujourd'hui? C'est l'économie qui domine. On ne se pose plus le problème de l'homme. Le Saint-Père a beau le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait des guerres justifiées au point de vue économique. Au fond, la plupart du temps, c'est ça. Il y a un motif économique. Mais ce sont des guerres injustes. Une guerre qui est justifiée uniquement au point de vue économique est une guerre injuste. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour des questions d'économie. Si grave que ce soit, hein, au sens propre, le problème éthique n'est plus posé. Hein. Il se repose un peu. C'est l'enquête qu'a fait Frédéric Lenoir pour essayer de voir si de fait aujourd'hui il n'y avait pas partout dans tous les secteurs une crainte, une peur. Où est-ce qu'on va? Ce problème se pose en philosophie. Ici on ne fait pas de théologie, mais c'est la même chose en théologie. Extrêmement difficile de trouver un problème, quelqu'un qui enseigne vraiment la théologie morale. C'est normal, puisque la théologie dépend de la philosophie. Alors, dans les périodes de crise, il y a toujours un retour à la source. Toute notre culture dépend de la Grèce. Au point de vue du Moyen-Âge, c'est net. Et au point de vue actuel, c'est pas de la Grèce actuelle, c'est évident, mais c'est de la Grèce ancienne, des penseurs grecs. Alors, il y a un problème extrêmement intéressant. C'est de poser et de faire soi-même cette petite enquête. Évidemment, en première année, ne la faites pas, parce que vous seriez pris par l'histoire et puis vous ne seriez pas pris par le point de vue de la pensée. Mais on peut le faire en seconde année. Regardez chez les philosophes grecs la naissance de l'éthique, la naissance de la morale. Où est-ce qu'on voit ça? Bon, évidemment, c'est Socrate, le grand-père. Vous avez la morale socratique. Le petit livre du père de Mans, de Socrate à Jésus. Parce que ce sont deux qui n'ont rien écrit. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui n'ont rien écrit. Mais ce sont deux grands qui n'ont rien écrit. Il y a une morale socratique. Connais-toi toi-même. Un petit examen de conscience. Est-ce que tu te connais? Ah, comment? Ton voisin te connaît quelquefois beaucoup mieux que toi-même. Ce qui est vrai. Puis, morale de Platon. C'est une morale qui est déduite de la contemplation. L'âme humaine est avant tout contemplative. Elle a alors, unis encore, il y a le point de vue politique. Et du point de vue politique, il y a le point de vue individuel. Contemplation politique, morale individuelle. Et la morale individuelle, la morale politique, est une morale de la justice. La contemplation contemple la bonté. La morale politique est une morale de la justice. Et on retrouve la même chose du côté individuel. Cette parole qu'il ne faut jamais oublier de Platon dans la République. La justice est écrite en grosses lettres vis-à-vis de ceux qui gouvernent. Oui, c'est très actuel. Et en petites lettres dans l'individu. Regardez ceux qui nous gouvernent, vous comprendrez ce que c'est que la justice. Hein? Platon disait ça en idéaliste. Et en petites lettres, essayez de les découvrir en vous. C'est très joli. Mais évidemment, c'est peut-être pas toujours comme ça. C'est la morale politique de la justice. En gros, c'est ça. La morale des lois. C'est les lois. Des dernières œuvres de Platon, c'est les lois. C'est très significatif. On voit pas Aristote écrivant en dernier lieu les lois. Et puis vous avez la morale d'Aristote, la morale du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? L'éthique, l'éthique à Nicomaque. Il faut tous avoir lu l'éthique à Nicomaque. Comme il faut tous avoir lu au moins un ou deux dialogues de Platon. Autant que possible la République. C'est gros. C'est intéressant. Et ça vous peut poser des tas de problèmes. Platon a l'immense avantage, c'est que ça se vous éveille. Et c'est facile. Alors si on l'a déjà lu dans le temps, c'est bon de relire. Et la République de Platon est une... C'est un monument. Il y a des tas d'erreurs qu'on voit aujourd'hui. Parce que Platon a formé notre philosophie. Heidegger dit la philosophie européenne est platonicienne. Alors, il vaut mieux la regarder dans sa source, c'est plus intelligent que la regarder dans les derniers. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que Platon reste tout le temps quelqu'un qu'on doit connaître un peu. Même si on n'insiste pas beaucoup au point de vue du cours sur Platon. Platon, on peut le lire, parce que c'est très poétique. C'est pas très analysé. C'est très poétique, alors ça pose des tas de questions. Il y a la République et les lois. Mais lisez la République, c'est plus intéressant. La République représente la grande synthèse platonicienne. Avant que Platon se critique lui-même. Platon a commencé de se critiquer avec Parménide. Le banquet, il s'est critiqué. Tête, il y a deux périodes dans Platon, il y en a plusieurs, mais au fond, deux grandes. On peut dire Platon, dans un élan extraordinaire, il aspire devenir tyran, c'est-à-dire roi. Parce qu'il a des ancêtres qui étaient empereurs. Alors, c'est dans son sang, il appelle d'être celui qui va gouverner. C'est pas très commode, puisque la démocratie est en train de s'installer. Mais c'est intéressant de voir ça. Alors, il y aurait avant Socrate, n'oubliez pas les sophistes. Alors, pas de morale, uniquement la rhétorique, uniquement le pouvoir. N'importe quoi, ayez le pouvoir, ça c'est les sophistes. Et les sophistes ont marqué très fort la Grèce. Ce sont des professeurs, les sophistes. Des professeurs qui se font payer. C'est un genre psychanalytique. Et politique, les sophistes. C'est pour vous montrer que la rhétorique domine la persuasion. Il suffit de persuader les gens, peu importe la vérité, il n'y a pas de vérité. Alors la réaction de Socrate, qui veut instaurer, réinstaurer la morale. Platon, alors, un idéalisme extraordinaire, mais un idéalisme qui veut être réaliste, qui veut toucher la réalité. À ce point de vue-là, Platon est un réaliste. Mais un réaliste, un super réaliste. Un réaliste de projeter sur l'homme ce qui est divin. Le divin, c'est le réel. Ça, il n'y a que Dieu qui est nous sommes, nous vivons dans la caverne. D'ailleurs, on voit les apparences. Mais il y a une recherche de vérité chez Platon. Une authentique recherche de vérité. Platon est un grand génie. Poétique. Philosophique. Et Aristote grande sur Platon. Ça, je crois. Très, très grand. Parce que les Grecs sont très, très influencés par les jeunes, par les questions des jeunes. Vous voyez ? C'est par là que vous influencez votre professeur, c'est en lui posant des colles, des questions, de vraies questions. Hein. Des questions que vous posez. Et c'est pour ça qu'il faut poser les questions. Quand on assiste à un cours et qu'il y a des questions, il faut les poser. Les vraies. Je ne vous demande pas à la fin du cours, parce que quand on demande comme ça, oralement, ça part dans tous les sens. Déjà, écrire une question, on s'aperçoit si c'est intelligent ou pas. Alors, autant que possible, on ne pose que des questions intelligentes. Mais c'est bon de se les poser. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Ça, c'est éducatif. C'est la méthode socratique. On pose des questions. Il y a des mots que vous ne comprenez pas. Alors, vous demandez à vos parents, ça. Parce qu'il ne faut pas accepter des mots qu'on ne comprend pas. Ça fait partie de l'hygiène profonde de la pensée. On ne doit jamais employer un mot qu'on ne comprend pas, dont on ne sait pas la signification propre. Aristote, morale du bonheur. Éthique à Nicomaque. C'est souvent par là qu'on s'introduit dans Aristote. C'est par l'éthique à Nicomaque. Parce que c'est lisible. C'est même très beau. C'est grand. Oh, c'est pas toujours commode, hein. C'est d'Aristote. Mais c'est grand. Alors on voit l'importance chez Aristote de l'amour d'amitié, la philia. Alors que chez Platon, la philia avait disparu. Et c'était Eros. Alors là, on trouve tout de suite deux aspects extrêmement intéressants. Le point de vue Eros, qui est l'amour instinctif. L'amour passionnel, avec toute sa grandeur, et même un amour spirituel. Ça c'est sûr, chez Platon, Eros implique un amour spirituel. Mais enraciné dans le point de vue instinctif et le point de vue passionnel. Chez Aristote, c'est la philia. La philia qui n'est pas Eros. La philia qui est l'amour d'amitié. Un amour spirituel. Je dis exprès amour d'amitié et non pas amitié. Parce que amitié a perdu son sens. Aujourd'hui, amitié, c'est camaraderie. Pour Aristote, philia touche notre finalité. Et c'est pour ça qu'on peut dire amour d'amitié. Il y a quelque chose de très particulier chez Aristote. C'est d'avoir découvert, au-delà de Platon, la finalité. Ça, c'est un point de vue extrêmement intéressant de comparer Aristote et Platon. Au point de vue de la finalité. J'avais un bon père dominicain à Fribourg qui avait enseigné pas mal la philosophie et qui prétendait tout le temps, mais Platon a découvert la finalité. Plus qu'Aristote. Je dis non, c'est pas vrai du tout. Qu'il faut regarder la finalité chez Platon, c'est intéressant. Il en parle, c'est bien évident. Mais finalité, vous voyez, bonté et beauté se tiennent très fort. Chez Aristote, la bonté seule finalise et la beauté séduit. Aristote ne dit pas ça comme ça, mais en réalité, c'est un peu ça. La beauté est beaucoup plus intellectuelle, tandis que la bonté touche notre cœur. Sitôt après Aristote, on va avoir une très grande diversité de morale. On aura la morale des stoïciens, qui sera la morale de la vertu. Et c'est celle qui a pénétré le plus dans le christianisme. C'est pas celle d'Aristote. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est un fait. Les stoïciens enseignaient à Rome du temps de Jésus-Christ, en l'an 50. Saint Paul a été très marqué par la morale stoïcienne. Il y a toute une formation grecque, Saint Paul. Il est pharisien, il est juif, c'est sûr. De race, mais de culture, il est grec. Mais le grec de l'époque, c'est-à-dire très stoïcien. Il était très formé par ça. C'est un plaisir qui va jusqu'à la contemplation. Si on contemple, c'est parce que la contemplation est source des plus grandes joies. Des plus grands plaisirs. C'est à cause de ça qu'on contemple. C'est parce que ça nous épanouit intérieurement. Ce qui est vrai. Mais alors, à la place de regarder celui qu'on contemple, on regarde la joie qu'il vient de contempler. La satisfaction qu'il vient de contempler. Vous voyez, c'est ça Épicure. C'est ce regard réflexe sur l'homme. Et on gratue alors tous les plaisirs. C'est la différence entre le gourmet et le gourmand. Ben, le gourmand, il en prend le plus qu'il peut. Le gourmet, non. Il aime les choses qualitatives. Le gourmand, c'est quantitatif. Mais alors on voit très bien que Épicure, c'est très qualitatif du côté de la jouissance. Pas du tout le. Quand il y a un épicurien aujourd'hui, on regarde tout de suite le point de vue. Très, très sensuel, si vous voulez. C'est pas tellement sensuel, Épicure. Mais c'est subjectif. Hein, primat du sujet et de la joie. On a tous rencontré des épicuriens dans notre vie. Des gens qui ont un sens extraordinaire de la qualité dans la manière dont ils se nourrissent, la manière dont ils vivent. Il y a tout un style épicurien. Oui, c'est ça, fait partie de quelque chose de très spécial, très particulier. Et ça fait une morale. Il y a une morale épicurienne. Il est très conscient du reste. Le seul livre que j'ai vu daté de la date du fondateur de l'école d'Épicure, c'est justement chez Épicure. Les livres d'Épicure, pas toujours, hein, mais sont datés en fonction de la naissance d'Épicure. Et non pas en raison de la naissance de l'ère chrétienne. C'est assez significatif, ça montre très bien que Épicure donne une religion de la joie, de la jouissance, du développement de soi. Vous voyez, ça retrouve comme ça. On dit, le développement de soi. Oh, ce qu'on est épanoui. C'est toujours un printemps. Alors, c'est épicurien, ça. C'est épicurien. Développement le plus parfait. Puis demeure encore, alors, très profondément après le néoplatonisme. Et le néoplatonisme représentera l'ultime moment d'une morale contemplative. Une morale mystique. C'est une morale mystique, les néoplatoniciens. Avec Plotin. Oui, c'est intéressant de voir que en philosophie grecque sont nées toutes les modalités d'une éthique. C'est ça qui m'intéresse, moi. Oui, les Grecs ont de fait été à la source de toutes les morales qu'on trouve en Europe. Il faudrait peut-être ajouter la morale machiavélique, politique. Efficacité. Oui, on pourrait pas. C'est peut-être la seule qui est moderne, qui est vraiment moderne, et qui n'existait pas en philosophie grecque, je crois pas. On ne trouve pas ça. La morale de l'utilité pure. Parce que l'efficacité pure, c'est toujours l'utilité pure. Alors, c'est parallèle avec le point de vue épicurien. C'est quand même pas épicurien. Donc retenez ça, que la Grèce est source de toutes les diversités philosophiques de la morale. Or, la philosophie éthique fonde une anthropologie. L'anthropologie est toujours un peu éthique. Elle implique autre chose, elle implique le point de vue de l'efficacité, du facere. Elle implique le point de vue du philosophie du vivant. C'est tout ça qui fait l'anthropologie. Mais l'éthique donne un sens morale, c'est une morale qui sonde sur la créativité. La créativité, ne l'oubliez pas, ça vient de Nietzsche. Or, aujourd'hui, vous savez bien, si on veut avoir du monde à une session philosophique, annoncer créativité. Alors, vous aurez tous les Nietzscheens du monde qui viendront, et puis tous les autres. Parce qu'il n'y a rien de plus à la mode que parler de créativité. Parce qu'on parle même de la créativité au point de vue liturgique. Et au point de vue liturgique, on dit que la créativité, à chaque messe, on devrait inventer un nouveau canon. La créativité. Oui, comme ce serait bien, chaque messe, on inviterait un nouveau canon. J'ai lu ça. Parce que j'aurais jamais pensé ça. Il faut que... Et c'était écrit dans une semaine religieuse, quoi. Dans un milieu chrétien. C'est déjà vieux, parce que maintenant, on le dirait peut-être plus. Mais à ce moment-là, on croyait qu'il fallait tout renouveler, tout reprendre. Alors, Rome, peut-être quelques canons modèles. Mais à partir de là, on fait nos petits canons. La créativité, parce que on ne vit que dans la créativité. Faut jamais de répétition, faut jamais le quotidien, ça c'est, on tombe dans des ornières. Faut sortir de ça, il faut toujours tout soit créé dans la créativité. Le changement perpétuel, vous voyez. Quand Giscard parle du changement perpétuel, c'est Nietzsche. Mais un petit Nietzsche, mais pas un grand. Vous voyez, c'est des répétitions de Nietzsche. Donc ils se croient original, ils ne font que répéter. Ils sont pour la créativité et ils répètent. Et c'est vrai, on voit très bien que c'est pas du tout repensé, c'est pas du tout revécu. Tandis que chez Nietzsche, c'est très différent. Il y a une grandeur, Nietzsche. Il faut faire attention, il ne faut pas lire trop vite du Nietzsche. Parce qu'on perd son temps. On ne le comprend pas vraiment. Il faut lire Nietzsche en essayant de voir ce qu'il y a d'intéressant. La créativité. Je crois que c'est ça qui est l'intuition dominante. L'homme et création. Vous voyez, on identifie l'homme et la création artistique. Et à partir de là, il y a comme une espèce de nouvelle morale, qui est la morale du surhomme. Qui n'est pas encore là, et qui depuis Nietzsche n'est pas encore là. Les fruits ne sont pas très fameux. Mais ça a été... Nietzsche a eu sûrement une influence sur le nazisme, une influence sur le néo-nazisme, une influence constante. C'est quelque chose d'assez puissant, d'assez poétique, puissant. Il y a la morale épicurienne qui renaît tout le temps. Ça, c'est sûr. Il y a une morale politique, civique, de la loi. Le socialisme poussé à l'extrême, c'est une morale politique qui écrase l'individu et la personne et la famille. C'est un succès d'année de la République de Platon. Je dis bien un succès d'année, ça n'a pas la dignité, ça n'a pas la grandeur, mais on voit très bien. C'est une morale politique. J'ai entendu dans un lieu religieux, je ne dis pas. Pas la peine de dire où. Un religieux me dire, après avoir exposé, qu'il me semblait que l'éthique reposait fondamentalement sur l'expérience de l'amour d'amitié, me dire devant les autres, donc c'était dit très simplement, c'était un novice, me dire l'amitié c'est quelque chose de conventionnel. Je dis non, l'amitié n'est pas quelque chose de conventionnel, c'est quelque chose de proprement humain. Aimer, c'est humain, c'est pas conventionnel. Alors, comme il tenait bon, je dis, votre vocation, alors, c'est quelque chose de conventionnel. Ah, mais il dit oui, c'est conventionnel, ma vocation. Ah oui, alors, et votre amour pour le Christ, c'est conventionnel. Mais oui, c'est conventionnel. Parce que ça fait bien. Et j'ai pas pu arriver, on a discuté pendant un certain temps, j'ai pas pu arriver à lui faire comprendre la différence entre le conventionnel, le point de vue légal, et le point de vue nature. Vous voyez, on retrouve les problèmes sur lesquels Platon a discuté. Il y a le point de vue de la loi et le point de vue de la nature. Le phusikos, Aristote, ce qui est naturel, et puis ce qui est conventionnel, ce qui relève de loi ou d'axe de coutume. Et ça, c'est très important de voir que, au point de vue C'est comme ça, c'est les mœurs d'aujourd'hui. C'est les mœurs d'aujourd'hui, vous voyez. Voilà ce qui se fait dans un milieu bien. Voilà, pour ne pas heurter les gens. C'est la mort de la morale. Complètement. Parce que c'est l'aspect conventionnel qui domine et qui mesure tout. Mais ça existe. Parce qu'on a brisé la nature et donc il n'y a plus que l'individu qui essaie de chercher son bonheur de mille façons. Morale utilitaire, ça c'est sûr. Comme il y a une amitié utilitaire. J'ai cet ami parce que moi je suis fort en version. J'ai un ami qui est fort en thème. Je suis fort de telle matière, mon ami sera fort en autre chose. Comme ça, on se complétera. Alors, ça existe, chez les brigands, ça existe. Ça. On fait le coup ensemble, puis après, on se partage le butin, puis chacun s'en va de son côté. Morale utilitaire. Vous voyez, qui est le fruit d'un fondement économique. On s'entend uniquement. Vous voyez, c'était dégradé de la morale. Même Lévinas, qui pourtant est un philosophe sérieux, presque trop sérieux. Parce qu'il est tellement sérieux qu'il croit en sa sériosité. Il essaie de fonder la morale. Il essaie de chercher la morale. Connaître l'autre. Comment connaître l'autre? Ce qui est très intéressant quand vous lisez, vous voyez, lisez une éthique aujourd'hui, c'est de voir quel est son fondement. Je crois que c'est le premier problème. Qui est un problème critique, je suis tout à fait d'accord. C'est un problème critique. Mais c'est un problème qui me semble aujourd'hui absolument nécessaire. Quel est le fondement d'une morale philosophique, humaine? Il faut se poser la question. Des quantités de chrétiens sont fidéistes là-dessus. Il y a une morale donnée par Dieu, et puis c'est ça. La morale de l'Ancien Testament, les 10 commandements. Et alors je commence la morale par la loi. Comment on peut commencer la morale par la foi, par la vertu? Commencer la morale par la loi, c'est par le fondement, puisque la loi est le fruit de l'homme ou de Dieu. Donc avant la loi, il y avait quand même quelque chose d'autre. Donc c'est par le fondement. C'est toujours second la loi. Ceux qui sont les législateurs sont des gens normalement qui sont des sages. Normalement. Alors, en tant que sages, ils peuvent donner des lois. Ils peuvent essayer de rappeler aux hommes quelle est leur finalité. Mais c'est pas premier. C'est très curieux. Et dans ce livre de Frédéric Lenoir, qui est une topique intéressante, c'est intéressant de voir que, au fond, on cherche quel est le fondement de l'éthique. Première question, quel est le fondement de l'éthique? Alors, je peux essayer de rejeter tout ce qui ne peut pas être fondement. Et peut-être la première question qui se pose, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'un fondement de l'éthique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose d'antérieur à l'éthique? Alors, à ce moment, ce n'est pas le fondement de l'éthique, c'est un fondement extrinsèque. Condition sine qua non. Pour qu'il y ait éthique, il faut qu'il y ait l'éveil de l'intelligence. Il n'y a pas d'éthique sans intelligence. N'allez pas parler de l'éthique du singe. Est-ce que le singe est éthique? Non. Il peut y avoir un dressage. C'était Monod qui disait dans les rencontres internationales à Genève, pour montrer le niveau. Monod disait ouvertement que entre le dressage du petit chat et l'éducation d'un enfant, c'était la même chose. On dresse le chat à être propre. On éduque l'enfant à être propre. Et rien d'autre. C'est la même chose. Y a-t-il une éthique? Vous voyez, l'éthique à l'égard
et conventionnel. Qu'est-ce que c'est d'avoir un chant propre? Est-ce que c'est un chant auquel vous avez, avec une petite lame, petite lime, enlevé toutes ces griffes pour qu'il soit toujours doux, doux? On lui a enlevé toutes les griffes et on l'a éduqué. On lui a imposé un carcan. Tu seras avec nous, mais hein, sois sage. On va te lisser tous tes ongles. Tu ne feras plus rien du tout. Tu ne pourras plus. Et les dents. Vous voyez, je prends exprès ces exemples-là parce que c'est très caractéristique. Ça nous fait comprendre. Le dressage est une œuvre artistique de l'extérieur. Dresser un éléphant à jouer du piano. À ce point de vue-là, les cirques sont intéressants parce qu'ils nous font comprendre toute la différence entre le dressage et l'éducation. C'est quelque chose de tout à fait différent. Si on avait le temps, on irait tous au cirque de Bosco, qui paraît-il est particulièrement cirque. Alors, ensuite, il y avait le cirque Cuny. Alors, les étudiants dansent dans ma vie pour qu'on puisse comprendre la différence entre le dressage et l'éducation. L'éducation vient de l'intérieur. Alors, voyez, on éduque quelqu'un en respectant, comme on disait, ancien, sa nature. Hein? Je comprends très bien comment les traditions de droite qui existent disent le fondement de la morale, c'est la nature. Nous avons tous entendu ça. Et ça revient de temps en temps. C'est la nature humaine. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Parce que si je vois la nature humaine a des prix très très différents aussi au point de vue ethnique. Dans des pays matriarcaux, ou bien le patriarcat, est-ce que c'est la femme qui commande ou est-ce que c'est l'homme qui commande? Et il y a des choses qui sont différentes à partir de là. Au point de vue éthique, il y a le mariage fondé sur le père et la mère. Et puis il y a le harem. À quel moment c'est antinaturel? Ou est-ce que c'est naturel? C'est pas si commode que ça. Parce que la nature humaine est une nature qui implique un devenir. Quelle est la nature qui évolue le plus? C'est celle de l'homme. Depuis le premier moment de la conception jusqu'à la mort, il a passé par des états très très différents. Il est évident que si je prends la nature, j'implique l'état de nature. Or, l'état de nature du vieillard n'est pas celui de l'enfant dans le berceau. Est-ce que la nature n'est-elle pas, par rapport à la morale, vous voyez, la condition sine qua non pour qu'il puisse y avoir morale? Il faut qu'il y ait une nature, ça, une nature humaine, c'est-à-dire une âme spirituelle. Ça, je crois. Mais comme on parle plus de l'âme, alors qu'est-ce que c'est que la nature? Aujourd'hui, pour les gens, on ne parle plus de l'âme. Alors que c'est l'âme spirituelle qui serait, elle, fondement, d'une certaine manière, lointain, mais fondement. Condition sine qua non, comme un fondement lointain. Pas commode. Le dressage, on comprend très bien. C'est l'homme qui dresse l'animal. De sauvage qu'il est, il devient domestique. Il l'introduit dans sa petite église domestique. Alors, quand il est en dehors, il est en dehors. Donc, le dressage vient de l'extérieur. C'est une taille. On taille. Taille des arbres. L'éducation vient de l'intérieur. Ça me semble très net. Il n'y a pas de violence, si vous voulez, dans l'éducation. La violence est rejetée. Elle n'est pas éducatrice. La violence. De temps en temps, on doit pouvoir taper sur les doigts. Hein? Est-ce que c'est éducatif ou est-ce que c'est du dressage? Vous savez, ces vieux maîtres, ils vous tapent sur les... Et ça se fait encore comme ça. Comment ça prenait le Coran chez les petits noirs? Il y a le maître du Coran. semaine suivante, on apprend par cœur. On doit apprendre par cœur, sans rien comprendre. On leur donne la traduction, c'est sûr, mais ils doivent apprendre par cœur. C'est pas si vieux, ces choses-là. Hein. Ça existait, je m'aime. Dans le christianisme, on apprenait par cœur certaines choses qu'on comprenait absolument pas. On récitait sa leçon. Voyez comme c'est peu éducatif et comme c'est très, très sage. Il y a un lien, c'est sûr qu'il y a un lien. Est-ce que donner une bonne fessée, c'est éducatif? Ou est-ce que c'est du dressage? Posez-vous la question. Voir la différence entre le dressage et l'éducation. C'est deux choses différentes. Quel est le fondement de la morale? Pour Kant, moderne, pour Kant, le fondement de la morale, c'est la conscience religieuse. Il faut faire cela. Mais voyez, la conscience religieuse n'est pas quelque chose de premier. Ça s'éduque, la conscience religieuse. Donc je ne peux pas dire que c'est un fondement. Pour Kant, c'est un fondement. Pourquoi? Parce que la conscience religieuse est liée à la volonté de Dieu sur nous. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous commande. Alors il y a l'impératif catégorique. Et cet impératif catégorique, justement, c'est lié à la volonté de Dieu. Ah, la volonté de Dieu, ah, elle peut être un fondement. Oui, elle peut être un fondement pour le croyant. Mais pour celui qui cherche, est-ce que la volonté de Dieu est un fondement? Mais non, c'est une découverte que je fais. Je découvre Dieu. Chez les stoïciens, c'est là le lien avec les stoïciens, c'était accomplir la volonté de Zeus, qui était le terme de l'éthique. Et Kant en a fait le fondement d'éthique. Toute la différence entre Kant et les stoïciens. Les stoïciens sont plus vrais. Donc, chercher quel est le fondement de l'éthique. Ça, c'est excellent. C'est très intéressant. Vous voyez, si on avait le temps d'avoir une question disputée, on marcherait là-dessus. Hein. Ça vaudrait la peine. Une question disputée sur le fondement de l'éthique. D'abord parce que j'ai pas réfléchi la plupart du temps. On est de bons chrétiens traditionnels, on suit. On est de bons chrétiens non conventionnels, on fonce. Et puis c'est tout, on se pose pas le fondement. Ni d'un côté ni de l'autre. On se pose pas la conscience. Aujourd'hui, c'est nécessaire. En face de l'anarchie généralisée, c'est nécessaire de se poser quel est le fondement.